De fortes pluies sur le Grand Nouméa ce matin, elles ont créé des perturbations sur les routes. D'autres précipitations sont attendues, mais la vigilance jaune est levée. La prolongation du recensement, les agents vont poursuivre leur collecte de terrain pendant quelques jours encore. Depuis hier soir, Elisabeth Rivière est le nouveau maire du Mont d'Or. Elle était ce matin notre invitée à 7h30. À l'étranger, Benjamin Netanyahou persiste dans sa volonté de libérer tous les otages et de désarmer le Hamas. En métropole, le rapport sur l'entrisme des frères musulmans agite la classe politique. Il a aussi provoqué l'agacement du chef de l'État. Et puis du football, et Tottenham met un terme à 17 ans sans trophée. Les Spurs ont remporté la Ligue Europa en battant Manchester United 1-0. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les déchets sont des ressources, c'est la conviction de plusieurs chefs d'entreprise et certains d'entre eux seront ce midi dans les Jeudis de l'économie que l'on retrouvera dès la fin de ce journal. Ils ont créé des entreprises de recyclage et pensent qu'une vraie filière peut se mettre en place. Nous en parlerons donc avec Franck Olivier, co-gérant de Pacific Valorisation NC, Yves Herbeau qui en est le directeur du développement et Valérie Tini qui est gérante d'Isoca. La valorisation des déchets c'est donc à retrouver dans les Jeudis de l'économie dès la fin de ce journal. Une journée qui a démarré sous la pluie. Nombreux ont été les automobilistes qui se sont fait surprendre ce matin par des précipitations survenues dans le Grand Nouméa, Léana Colombo.
Et oui, ce sont littéralement des trombes d'eau qui se sont mises à tomber tôt ce matin. Conséquence, des caniveaux ont débordé, des chaussées ont été inondées, des embouteillages se sont créés et des axes ont été temporairement fermés. C'était le cas par exemple à Dumbéa. La mairie a décidé de fermer la RT1 à Auteuil au niveau de la Dumèze ainsi que le parc provincial de la Dumbéa. L'interdiction à titre conservatoire est donnée jusqu'à midi sous réserve de changement de météo. Deux personnes sont d'ailleurs restées bloquées dans le secteur en raison de ces inondations. À Nouméa, 7 logements ont été inondés dans le secteur de la rue Ballard à Ducos. Les pompiers sont également intervenus à Rivière-Salée. 2 véhicules étaient bloqués par les eaux. Sur le centre-ville, la police municipale a temporairement interdit l'accès des rues Clémenceau et de l'Alma le temps de l'évacuation des pluies. Et puis certains feux tricolores de la rue Gallieni ont cessé de fonctionner temporairement, rendant la circulation compliquée, mais aucun accident n'est à déplorer. Météo France Nouvelle-Calédonie avait placé les 4 communes du Grand Nouméa en vigilance jaune forte pluie et orage, mais cette vigilance a été levée à 11h. Julien Ridao, chef prévisionniste chez Météo France Nouvelle-Calédonie, nous explique le phénomène.
Hier soir, on avait une zone qui attirait notre attention au sud-ouest de la Grande Terre. On pensait qu'elle resterait stationnaire en mer. On s'est rendu compte que cette ligne orageuse se déplaçait à contre le vent, à contre-flux, on dit, vers le Grand Nouméa, mais en plus qu'elle allait rester active. Entre 6h et 7h, on a eu 30 mm à Nouméa et on avait sur Dumbéa que 5 à 15 mm, un petit peu moins intense. Et par contre, à partir de 7h, ça s'est décalé un peu plus vers le nord ou nord-est, si vous voulez. Donc là, par contre, on a eu entre 7 et 8, on a eu 30 à 35 mm sur Dumbéa, alors qu'à Nouméa, ça a commencé à faiblir, autour entre 10 et 15 mm.
Malgré le retour du soleil, Météo France annonce surveiller encore les prochaines 24 heures ce phénomène qui se trouve actuellement entre Brisbane et le sud de la Nouvelle-Calédonie.
Comme nous vous l'annoncions hier soir, le recensement qui devait se terminer aujourd'hui 22 mai est finalement prolongé de 6 jours. La décision a été prise par l'INSEE en concertation avec l'ISEE pour finaliser la collecte dans les secteurs où des logements restent à recenser et pour permettre aux derniers foyers qui n'ont pas été recensés de se signaler auprès des agents recenseurs. À ce jour, plus de 100 000 foyers calédoniens ont été recensés, mais les opérations vont donc se poursuivre jusqu'au mercredi 28 mai. Une telle prolongation est assez fréquente, nous confirme Jean-Philippe Groutier, inspecteur général de l'INSEE, qui est chef de mission pour le recensement 2025.
Si on prolonge, c'est qu'on a déjà un bon taux de collecte. On peut estimer qu'on a plus de 100 000 foyers qui ont déjà répondu. On est entre 85 et 90% des foyers qui ont déjà répondu. Mais pour améliorer encore un peu ce taux, qui est déjà supérieur à ce qui avait été réalisé en 2019, on a souhaité se donner quelques jours de plus pour réussir à aller obtenir les réponses de, notre objectif, ça serait plutôt d'être aux environs de 95%.
L'objectif de l'ISEE, c'est d'avoir recensé donc 95 à 100% des logements. Dans certains secteurs, il est nécessaire de continuer. En revanche, les opérations vont s'arrêter dès ce soir dans les communes où ces chiffres ont été atteints.
Il y a des zones sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie où on va arrêter la collecte. L'essentiel des communes du nord et de la côte est vont être arrêtées parce qu'on sera à 95, 96, voire 100%. Sur l'île des Pins, par exemple, il manque 5 logements sur 895. Donc ça, c'est des zones où on va arrêter. Et puis après, au fur et à mesure qu'on s'approchera de notre objectif, je répète, qui est si possible de 95%, on arrêtera la collecte. On a toute une série de zones dans le Dumbéa, par exemple, où on est déjà à 95%, donc on on va arrêter là aussi la collecte. On a des zones dans Nouméa, par exemple la partie nord de Nouméa, on arrêtera parce qu'on a atteint un niveau de collecte suffisant. Quand on dit 95%, bien évidemment, les logements où on n'a pas pu obtenir de réponse seront quand même pris en compte dans le calcul de la population dite de référence. C'est-à-dire qu'on redressera bien évidemment les chiffres bruts en fonction du nombre de logements.
Voilà, les opérations vont donc s'arrêter dans les communes où les objectifs ont été atteints. Il y a le cas particulier de la commune de Païta où le recensement a pris du retard parce que beaucoup d'agents recenseurs ont démissionné et qu'il a fallu en recruter et en former de nouveaux. Ces 6 jours supplémentaires permettront d'aller au bout de l'opération. Et Jean-Philippe Groutier lance aussi un appel à ceux qui n'ont pas encore reçu la visite d'un agent recenseur. Ils sont invités à contacter l'ISEE avec le numéro vert qui est le 05 20 00, le 05 20 00. Il tient également à remercier la population pour sa participation active à cette opération de recensement. Au lendemain de son élection, Elisabeth Rivière était dans nos studios ce matin. Elle a donc été interrogée sur ses priorités comme maire du Mont-d'Or. Et en premier lieu, nous a-t-elle dit, il y a la sécurité.
Nous allons déjà renforcer la sécurité au cœur de la ville du Mont-d'Or, dans notre centre-ville. Aujourd'hui, si l'on veut que l'ensemble des commerçants qui y sont présents puissent continuer leur activité, les habitants qui y résident puissent y vivre sereinement, il faut que l'on travaille sur cet espace et que l'on remette la sécurité au cœur de ville. Et nous devons aussi travailler sur cet axe Saint-Louis-Mont-d'Or Sud, notamment sur la route qui existe actuellement, mais aussi sur la future voie de contournement qui est pour nous un sujet majeur.
La sécurité et l'étude pour une voie de contournement des secteurs dans lesquels la mairie ne peut pas travailler seule, souligne le maire du Mont-d'Or, qui souligne la collaboration sur ces sujets avec l'État et la province sud. Le développement économique fait également partie des dossiers prioritaires fixés par Elisabeth Rivière, qui veut notamment l'accès sur le tourisme et sur la mer. Elisabeth Rivière qui confirme qu'elle gardera ses 2 casquettes de maire du Mont-d'Or et de présidente de la Chambre des métiers.
Je vais effectivement assurer les 2 fonctions, pas pour assurer des fonctions, comme je l'ai déjà dit, par conviction. J'ai pris aussi un engagement vis-à-vis des artisans au mois de novembre l'année dernière. Et ces 2 fonctions ne sont pas en opposition, bien au contraire. Et vous savez, on est président d'une chambre, on est maire d'une commune, mais on ne fait pas tout au quotidien. Autour de nous, on a une équipe d'élus, mais aussi on a une équipe d'agents dans les différentes structures. Nous, on est là pour piloter. Et quand on est un bon pilote, eh bien, je crois qu'on peut réussir à faire ces 2 choses. Je suis aussi fleuriste. C'est mon métier, c'est mon entreprise et je ne la laisserai pas non plus, parce que c'est important, c'est aussi le monde économique et on ne doit pas lâcher cet aspect aussi économique.
Elisabeth Rivière prend le relais d'Eddy Le Courrieux à seulement 9 mois des prochaines élections municipales. Elle a la volonté de rendre cette période utile et elle a adressé un message aux Mont-Doriens.
Je suis une vraie Mont-Dorienne, depuis toujours j'y habite, je connais nos difficultés, mais je connais aussi notre bonté de cœur et je sais que les Mont-Doriens savent se rassembler sur l'essentiel. À un moment, le Mont-d'Or a vraiment subi pendant ses exactions. Comme tous, il y a eu de la colère, il y a parfois de la haine pour certains, mais aujourd'hui on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il va falloir qu'on avance. Je sais que c'est difficile, hein, ça a été difficile pour nous, mais on doit montrer l'exemple et puis je ferai tout en tous les cas pour les Mont-Doriens, je donnerai tout ce que je peux, mais j'attends aussi qu'ils soient aussi parfois bienveillants parce que les finances sont exsangues et on ne pourra pas tout faire, mais on essaiera de faire du mieux possible.
Une interview d'Elisabeth Rivière, nouveau maire du Mont-d'Or, à réécouter ou à visionner sur notre site internet. Son élection s'est donc déroulée hier soir. Elisabeth Rivière était la seule candidate en lice. Elle a reçu le soutien de 18 des 24 conseillers votants. Il y a eu aussi 5 bulletins blancs et 1 nul. Et c'est le maire sortant Eddy Le Courrieux qui lui a remis l'écharpe bleu, blanc, rouge.
Ça me rappelle il y a exactement 6 ans quand j'ai pris cette fonction de maire. J'y ai vu dans les yeux d'Elisabeth tout l'enthousiasme, toute la fierté, tout l'honneur qui est fait de prendre ce type de fonction. Ce qui m'a marqué ce soir, c'est le ton avec lequel elle a parlé, la détermination et surtout la reprise des valeurs que l'on porte depuis toujours, les valeurs de la famille, les valeurs des communautés, du vivre ensemble, du développement économique et surtout dans la période où nous vivons, la période difficile de certaines familles, l'entraide que la ville aura pour ces familles-là.
Présent également hier soir, un autre ancien maire du Mont-d'Or, Éric Gay.
D'abord, moi, je voudrais remercier Eddy pour tout ce qu'il a fait dans une période pas facile. Et puis, Elisabeth est quelqu'un qui est vraiment issu de notre famille politique et puis de l'ensemble des valeurs que nous portons. Donc, j'ai une confiance totale en l'ayant eue comme sportive, comme élève. Voilà, donc c'est bien. Je pense qu'elle a l'autorité, elle a l'intelligence et puis elle aura le savoir-faire.
L'élection d'Elisabeth Rivière s'est déroulée en présence de l'ensemble des élus du conseil municipal. C'est d'ailleurs la première fois que les élus indépendantistes étaient présents depuis le début des émeutes du mois de mai 2024.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Eddy Lecourieux a-t-il eu raison, selon vous, de passer le relais à Elisabeth Rivière à la tête de la mairie du Mont-d'Or ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, 96% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent que le dégel du corps électoral doit rester un objectif prioritaire. Ils ne sont que 4% à ne pas partager cette opinion. Elisabeth Rivière, le nouveau maire du Mont-d'Or, participe aussi à sa première réunion de l'Association française des maires qui se réunit chaque mois en Assemblée générale. Ils se retrouvent aujourd'hui à La Foix. Ils ont accueilli Thierry Santal, le membre du gouvernement, pour un échange sur l'élaboration d'un cadre juridique régissant le temps de travail des agents publics. Présent également à cette réunion, le président du Sénat coutumier, Éloi Goé, venu présenter les travaux du Sénat sur l'avenir institutionnel. Déplacement en province nord aujourd'hui pour le haut-commissaire. Jacques Billan a d'abord rencontré les gendarmes de la brigade de Poya. Avant de s'entretenir avec le commissaire délégué pour la province nord, Gérard Péot, il s'est ensuite rendu à l'hôtel de province à Koné où il rencontre Paul Néaoutine. Cet après-midi, le haut-commissaire se rendra au RSMA avant de rencontrer les maires de Puebo et de la zone VKP. Il terminera sa journée par une visite du centre de détention de Koné. De vastes opérations de contrôle organisées cette semaine à Nouméa. Près d'une centaine de policiers mobiles étaient déployés hier entre 18h et 23h à Rivière-Salée, où le haut-commissaire s'est d'ailleurs rendu sur place. Charlotte Coulson.
50% de faits en plus entre le 1er avril et le 15 mai par rapport à la même période en 2024. La délinquance est en hausse sur Nouméa. La semaine dernière encore, une infirmière s'est faite dérober son matériel de travail dans le quartier de Rivière-Salée. Ce genre de faits de délinquance dits d'opportunité se multiplient, notamment les cambriolages et les vols à la roulotte. C'est pourquoi de vastes opérations de contrôle de zone ont débuté lundi dans plusieurs quartiers, Magenta, Caméré, Montravel et le centre-ville de Nouméa, ainsi que Dimbéa, mais aussi Rivière-Salée, où s'est rendu justement le haut-commissaire Jacques Billan hier soir.
Il s'agit vraiment de quadriller le terrain avec un engagement massif des forces de sécurité. Là, ce soir, ce sont 50 policiers et 30 gendarmes. J'y ajoute aussi l'appui des policiers municipaux qui vont être déployés dans le quartier pour opérer ce contrôle de 18h jusqu'à 23h, puisque c'est la période de la journée la plus sensible. Il s'agit de contrôler les entrées, les sorties, de faire du contrôle d'identité, du contrôle de véhicules, ce qui nous permet de vérifier qu'il n'y ait pas des cambriolages qui ont été effectués. Donc vraiment, cette présence, ces contrôles doivent permettre de rassurer la population. Elle doit se sentir en sécurité dans tous les endroits de Nouméa.
Et après être allé à la rencontre de la pharmacienne du quartier, Jacques Billan s'est rendu à l'entrée de Rivière-Salée, où plusieurs contrôles de police étaient en cours. Sur place, le major Alexandre, chef de la brigade motocycliste territoriale, soutenu par la brigade cynophile, a assuré les opérations, allant du simple contrôle de conformité à la recherche de stupéfiants.
Il était arrêté dans les embouteillages.
C'est une chose que je peux comprendre. Oui, tout à fait. Mais je vous dis, j'ai rendez-vous chez Trion. Je change mon pneu dans la semaine, la semaine prochaine. C'est la première fois que je prends une prune.
Ici.
Oui. J'ai eu un contrôle sur la conformité de la moto. Donc la moto n'était pas conforme, donc elle partait chez le garage. Mais bon, ça c'est personnel. Ça sécurise les véhicules et ça met un peu plus de sécurité sur la route.
Nous sommes là depuis à peu près 17 heures. Les contrôles ont débuté. Des contrôles essentiellement sur les papiers du véhicule, l'état du véhicule. Et comme ce soir, nous avons une réquisition qui vise notamment tout ce qui est trafic de stupéfiants, tout ce qui est vol. Le procureur nous autorise, dans un cadre bien précis, à fouiller le véhicule. Et apparemment, le chien a détecté quelque chose au niveau du bloc moteur. Donc, capot levé, et là, les collègues sont même en droit de procéder à du démontage. Quand la marchandise, les produits stupéfiants sont bien dissimulés, forcément, ça peut partir sur autre chose. Peut-être pas forcément que de la simple consommation.
Et les opérations de contrôle de zone comme celle-ci continuent cette semaine dans d'autres secteurs de Nouméa et du Grand Nouméa.
Un mot de l'actualité judiciaire. 15 ans de prison requis contre l'homme accusé de viol sur mineur de 15 ans. L'affaire est jugée aux assises depuis hier. L'accusé d'une cinquantaine d'années est soupçonné d'avoir violé à Nouméa de façon répétée entre 2015 et 2020 un jeune garçon à peine âgé de 7 ans au début des faits. Initialement, l'homme était au cœur d'une enquête pour détention de contenu pédopornographique. Il avait été repéré par une cyberpatrouille. Il est 11h45, la première pause de ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie et dans la région.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Le recensement touche à sa fin. Vous n'avez pas été recensé? Appelez le numéro vert au 05 20 00 ou signalez-vous sur Facebook EasyNC. Aujourd'hui, je compte pour demain.
Laisse-moi dédier cette chanson pour maman.
Du 19 au 23 mai sur Radio Rythme Bleu, chantons les mamans. Pour participer, c'est facile. Dès que retentit le signal jeu Chantons les mamans, vous appelez RRB au 25 46 46. Le premier auditeur ou la première auditrice, enfant ou adulte, qui chante une belle chanson pour sa maman en direct, gagne un cadeau offert par nos partenaires Creator, Factory Store, Happy Flower, Vivre un instant parfumé, les stations Shell et Pacific. Chantons les mamans, c'est du 19 au 23 mai sur RRB.
Simplifiez-vous la vie avec le paiement en ligne. Pas besoin de créer de compte, rapide et pratique. Allez sur www.cde.nc, cliquez sur espace client et choisissez le paiement express pour régler votre facture d'eau. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Le séminaire régional du comité des 24 se tient actuellement à Dili, la capitale du Timor oriental, avec la participation de plusieurs Calédoniens. Alcide Ponga s'est exprimé hier à la tribune comme président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Elisabeth Noir.
Alcide Ponga a dressé un tableau sans concession des violences insurrectuelles de mai 2024 et il a expliqué qu'à cause de ces émeutes, la Nouvelle-Calédonie a connu une régression brutale de plusieurs décennies. Notre territoire traverse une crise économique, sociale, politique et institutionnelle sans précédent, a déclaré le président du gouvernement, qui a conclu en évoquant les discussions sur l'avenir institutionnel. L'objectif de ces négociations est clair, a-t-il rappelé. Il s'agit de bâtir un projet commun qui respecte d'une part le choix souverain exprimé par une majorité de Calédoniens de rester français et d'autre part les aspirations légitimes d'une partie de la population à davantage d'autonomie, d'émancipation, voire de souveraineté. Pour le président du gouvernement, ce chemin est exigeant, mais il est le seul qui puisse garantir la paix, la stabilité, le progrès et le retour d'un destin partagé fondé sur un vivre ensemble sincère.
Et pour les partisans de la France, ce sont ensuite Naya Watéou et Marie-Laure Ukéwé qui sont intervenues comme pétitionnaires.
La première a rappelé que 3 référendums d'autodétermination ont été organisés sous la supervision de l'ONU et qu'à 3 reprises, les Calédoniens ont dit non à l'indépendance de manière souveraine, libre et éclairée. Un choix démocratique qui doit être respecté. Naya Watéou a également évoqué le récent refus par les partisans de la France d'une indépendance association. Ce n'est pas, a-t-elle dit, un caprice politique, c'est un choix assumé en cohérence avec la volonté exprimée par la population. Il vous faut respecter leur choix, a-t-elle déclaré au C24. Elle a aussi rappelé la gravité des émeutes pour préciser qu'il est trop facile de justifier cette insurrection comme une réaction à la pauvreté. C'est, dit-elle, une lecture paresseuse, injuste et profondément révisionniste. La réalité, a-t-elle déclaré, c'est que les milliers de jeunes qui ont saccagé Nouméa et réduit en cendres 3 décennies de développement l'ont fait animer d'une haine terrible, instillée à dessein par les indépendantistes radicaux. Marie-Laure Ukéwé s'est exprimée quant à elle en tant que femme kanak, en révélant qu'on l'insulte quand elle dit que la Nouvelle-Calédonie a toute sa place dans la France. « Mais je ne renierai pas mes convictions », a-t-elle déclaré, car c'est aussi cela, être libre. Marie-Laure Ukéwé qui a affirmé que la France est aujourd'hui notre plus précieux allié pour garantir notre sécurité, défendre la démocratie et nous aider à reconstruire avec tous une Calédonie apaisée, avant de déclarer « Notre combat est un combat pour la paix, pour l'unité et pour la dignité » et de souhaiter un avenir où la Calédonie reste cette terre française du Pacifique, prospère, ouverte et forte de ses diversités.
Et les indépendantistes sont représentés à Dili par Roch Ouamitan et Patrick Jomessi, et 2 sénateurs coutumiers sont également présents au Timor oriental. L'initiative Kiwa fête ses 5 ans. Un comité de pilotage est donc réuni à Nouméa pour les 2 prochains jours afin de faire le point sur les axes de développement, Nicolas Legrand.
Oui, pour rappel, l'initiative Kiwa est un regroupement régional qui vise à lutter contre les effets du réchauffement climatique. La France, via l'AFD, mais aussi l'Union européenne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada financent une 30aine de projets concrets portés par les populations sur le terrain. Écoutez Virginie Blétrac, la directrice régionale Océan-Pacifique de l'AFD.
Ce sont des solutions très concrètes qu'on appelle des solutions fondées sur la nature. Donc derrière ce vocable un peu obscur, ce sont des solutions qui reposent sur l'agroforesterie, la préservation des écosystèmes marins, côtiers, des mangroves, des récifs, la préservation des forêts, des ressources en eau, pour aider les communautés du Pacifique à faire face aux changements climatiques et à passer à l'échelle aussi des solutions qu'eux développent de par leur savoir traditionnel. Le fait de travailler à l'échelle de la région avec plus de financement et l'ensemble des bailleurs qui travaillent conjointement doit effectivement permettre ce partage de bonnes pratiques, ce passage à l'échelle et le fait de s'inspirer, d'apprendre les uns des autres.
De nouveaux projets ont été présentés, l'un en Micronésie et l'autre pour les îles Loyauté et neuf îles du Vanuatu qui s'appelle Résico, un projet porté par l'IAC pour 400 millions de francs sur 3 ans. L'objectif est d'améliorer la sécurité alimentaire des populations des îles et cela passera par une lutte contre les nuisibles notamment, mais aussi par l'échange de plantes qui passeront dans des serres de quarantaine pour éviter l'introduction d'espèces invasives et nuisibles. Laurent Lhuillier, le directeur de l'IAC, rappelle que la génétique est un enjeu important pour la sécurité alimentaire.
Dans le Pacifique, traditionnellement, beaucoup d'espèces sont consommées de manière traditionnelle et sont multipliées par voie végétative. Bananiers, choux canac, tubercules, plantes à tubercules. Donc voie végétative, c'est-à-dire que ce n'est pas une graine au départ. Et quand on multiplie par voie végétative, le génome, le patrimoine génétique est toujours le même. Donc au fil des siècles, voire des millénaires, on a toujours une base génétique qui est à peu près la même. Donc si on n'introduit pas de nouvelles diversités génétique, on prend le risque que cette diversité cultivée actuellement n'est peut-être pas bien adaptée au changement climatique à venir. Donc on sait que pour mieux s'adapter face au changement et à toute pression, hein, dont le changement climatique, une des clés, c'est la biodiversité et une plus grande biodiversité. Donc on ne va pas forcément introduire de nouvelles espèces, ça sera peut-être des nouvelles variétés de tubercules, de patates douces par exemple, mais des nouvelles variétés avec une nouvelle diversité génétique.
Résico est le 5e projet déployé en Nouvelle-Calédonie. Il devrait être lancé à partir du mois de juin.
Comment développer au mieux le tourisme dans la région Pacifique? L'Organisation du tourisme du Pacifique est en visite sur le territoire. Des sessions d'échange et de formation sont organisées pendant 2 jours, Charlotte.
Créée à Fidji en 1983, la SPTO regroupe aujourd'hui une vingtaine de pays du Pacifique Sud, dont fait partie la Nouvelle-Calédonie. L'organisation est en charge de la promotion et du développement touristique de la région à l'international. Pendant 2 jours, ses membres partageront leur expertise à une 80aine de participants regroupés ce matin à la FOL pour une session d'ouverture organisée par Philippe Artig et ses équipes. Il est directeur marketing et communication à Nouvelle-Calédonie Tourisme.
L'idée, c'est de faire profiter en fait les opérateurs touristiques calédoniens de l'expertise de cette organisation touristique internationale. Donc il va y avoir des formations en marketing digital, en développement touristique durable et en recherche et statistiques, ainsi qu'une présentation globale de tous les programmes de développement, de formation, les initiatives en fait du SPTO dans la région. Là, on rentre dans le dur avec des conseils très précis sur comment utiliser le marketing digital, les nouveaux outils pour toucher une clientèle notamment internationale. Et en recherche et statistiques et développement touristique durable, on est plutôt dans des choses qui vont concerner les institutions et les réseaux qui animent toutes les organisations du tourisme pour encadrer un développement efficace du tourisme.
L'événement a évidemment attiré de nombreux prestataires touristiques locaux, mais aussi des représentants d'institutions ou même des élèves de BTS Tourisme. Nathalie Sénéchal est gérante de Poé Côté Lagon à Bouraille et elle a choisi de s'inscrire pour une formation en marketing digital.
En fait, quand on a une petite structure comme la mienne, c'est vrai qu'on est un petit peu en dehors de tout ça. C'était intéressant d'assister à cette conférence ce matin. M'aider, je ne sais pas, en tout cas me faire une idée du travail qu'on a à accomplir. La tâche est importante. Je me rends bien compte qu'il y a des choses que la Calédonie fait pour le tourisme, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. Puis il y a des choses qui ont été dites et effectivement qui nous font réfléchir. Par exemple, les rotations aériennes, il faut qu'elles soient nombreuses pour que les gens puissent quand même avoir le choix. Donc tout ça, c'est à réfléchir et à vraiment accélérer parce qu'il y a d'autres destinations dans le Pacifique qui sont très attrayantes et il ne faut pas qu'on se fasse voler la place.
Les représentants du SPTO sont encore présents sur le territoire pendant 2 jours pour dispenser leur formation. Les personnes intéressées peuvent se rapprocher de Nouvelle-Calédonie Tourisme.
À 11h et bientôt 55 minutes, une nouvelle pause et on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Au Théâtre de Lille, samedi 24 et dimanche 25 mai à 18h, Marion, 13 ans pour toujours. Une pièce pour s'occuper des vivants, sobre, poignante et nécessaire. Une adaptation théâtrale avec Stéphane Piochot, Marie-Thécy Wen et Clémence Faure. Quand le théâtre rejoint l'actualité, le spectacle devient indispensable. Réservation sur ticket.nc, rendez-vous au Théâtre de Lille.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
L'actualité à l'étranger, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Nous ramènerons tout le monde. Ce sont les mots de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien confirme sa volonté de libérer les otages encore détenus par le Hamas à Gaza. Il serait une vingtaine encore en vie. Il souhaite évidemment désarmer aussi les membres de l'organisation terroriste et exiler ses responsables. Mais même dans cette configuration, un cessez-le-feu temporaire n'est pas exclu. Frédéric Simon pour Europe 1.
Sur cette question, la position officielle d'Israël reste inchangée. L'État hébreu Benjamin Netanyahou l'a répété ce soir. Est disposé à une interruption de quelques semaines de ses opérations militaires contre le Hamas en échange de la libération d'une partie des otages. Mais l'organisation islamiste rejette, elle, la possibilité d'un accord partiel et elle exige la fin de la guerre ainsi que des garanties internationales sur le renoncement d'Israël à reprendre les hostilités. L'écart entre les positions reste donc infranchissable. Dans la conférence de presse qu'il a donnée en début de soirée, le Premier ministre israélien a évoqué la perspective de la fin de la guerre, mais en ajoutant une condition à celle déjà formulée, outre le retour de la totalité des otages, le désarmement du Hamas et l'exil de ses dirigeants, Benjamin Netanyahou a évoqué la mise en œuvre du plan Trump, à savoir l'expulsion des habitants de la bande de Gaza en dehors du territoire. L'évocation de la mise en œuvre de ce plan comme condition de la fin des opérations militaires a surpris en Israël, d'autant plus que Donald Trump lui-même semblait s'en distancier plus encore depuis sa récente tournée dans les pays arabes du Golfe Persique.
En métropole, le rapport choc sur l'influence des frères musulmans continue de faire réagir. Ce document de 73 pages qui montre leur volonté de s'infiltrer dans de nombreuses sphères de la société française a été présenté en Conseil de défense. Le chef de l'État s'est montré, semble-t-il, agacé. Il a recadré ses ministres dont il juge les propositions insuffisantes pour lutter contre cet entrisme d'un islam radical. Seule annonce concrète, le rapport sera publié d'ici la fin de la semaine et un nouveau Conseil de défense aura lieu le mois prochain. Après cette réunion, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a annoncé quelques pistes devant les sénateurs.
Ce qui devra être proposé dans les mois à venir, dans les semaines à venir, c'est une meilleure organisation de l'État avec un vrai chef de filat en matière de renseignement et un parquet administratif au ministère de l'Intérieur pour, diligenter des dissolutions, diligenter des entraves administratives.
Et ce rapport sur l'islam radical est évidemment largement commenté par la classe politique. Maïlène Trémollet pour Europe 1.
Que de temps perdu, voilà l'avis de Marine Le Pen sur le sujet qui rappelle que le RN avait déposé une proposition de loi dans ce sens dès 2021. Si le Rassemblement National espère néanmoins du rapport qu'il produise un électrochoc, le président du parti Jordan Bardella va plus loin. Il appelait ce matin à l'interdiction pure et dure des frères musulmans.
Je souhaite que les frères musulmans soient interdits, dissous, considérés comme une organisation terroriste et que l'ensemble de ces relais soient combattus sur le plan administratif.
Sans surprise, les partis du socle commun appellent d'une même voix à réagir. Écoutez Gabriel Attal, chef de file des députés Ensemble à l'Assemblée nationale, pour qui ce rapport représente, je cite, une claque pour ceux qui défendent la République.
Il montre une offensive organisée pour défier nos valeurs républicaines. Ceux qui affirmeraient que cette mesure-là irait contre l'islam sont précisément ceux qui confondent islam et islamisme.
Une allusion directe au parti de gauche, en particulier la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon lui-même s'indignait ce matin sur ses réseaux sociaux, affirmant, je cite, que l'islamophobie avait franchi un seuil et pourrait aller jusqu'à détruire le pays.
11h59, une dernière pause avant de voir l'actualité sportive et ensuite nous nous retrouvons pour les Jeudis de l'économie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Marlène Alma, Païta et Port-Plaisance, trois boutiques pleines de cadeaux. La parfumerie, la maroquinerie, la lingerie, le textile, Marlène, le seul plaisir d'offrir.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Tout le sport, en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Bodin.
Avec d'abord du football et cette victoire de Tottenham sur Manchester United en finale de la Ligue Europa. Premier succès européen pour Tottenham depuis 41 ans, Léana Colombo.
À Bilbao, le duel 100% anglais de la finale de la Ligue Europa a tourné à l'avantage de Tottenham. Score final 1-0. Une finale qui malheureusement ne restera pas dans les annales tant elle aura été pauvre en occasion. Il aura donc suffi d'un but chanceux de Brennan Johnson pour permettre à Tottenham de rafler la mise. En battant Manchester United, l'équipe d'Angers Postecoglou a validé son billet pour la prochaine Ligue des Champions, en plus d'ajouter un titre européen à son palmarès pour la première fois depuis 41 ans.
Le football, ce sont aussi les choix du sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. Il a annoncé les 25 joueurs sélectionnés pour le Final Four de la Ligue des Nations.
Dédé a fait appel à deux nouveaux dans le groupe. Le premier, Ryan Cherki, était attendu depuis de longs mois. Souvent appelé chez les espoirs, le Lyonnais de 21 ans connaît donc sa toute première convocation dans l'équipe première. Le second nouveau est une surprise. Il s'agit de Pierre Kaloulou, actuel joueur de la Juventus. Le reste de la Ligue de Deschamps est marqué par l'hécatombe en défense. Les absences de Dayo Upamecano, de William Saliba et de Jules Koundé pour blessure sont compensées par les sélections de Loïc Badé, Malo Gusto, Clément Longlet et le grand retour de Lucas Hernandez.
Le cyclisme avec le retour de Richard Carapaz au premier plan. Il remporte en solitaire la 11e étape du Tour d'Italie.
L'Équatorien a su placer son attaque au bon moment pour s'imposer. Il s'est échappé à 9 km de l'arrivée dans une montée au moment où l'échappée matinale se faisait rattraper. Il a su résister au peloton. Deuxième de la 11e étape du Giro, Isaac Del Toro n'a eu aucun mal à conserver son maillot rose. La nuit prochaine, place à la traditionnelle étape de la vallée du Pomo d'En Viadana, réservée aux sprinteurs après 172 km, marqués seulement par quelques reliefs.
Et puis on termine avec du tennis et l'ATP 500 de Hambourg qui aura réservé quelques surprises en 8e de finale.
Alexandre Muller a battu la tête de série numéro 1 du tournoi à Alexander Zverev en 3 sets, dont le dernier a été particulièrement accroché. Giovanni Mpetit-Péricard faisait quant à lui face au Canadien Félix Auger-Aliassime et a été sèchement battu en 2-7, 6-2, 6-4. À Genève, les Français n'ont malheureusement pas brillé. Quentin Alice a été sorti par Taylor Fritz et Arthur Rinderknecht a été éliminé par Hubert Hurkacz. Du côté des qualifications à Roland-Garros, après l'annulation du reste des rencontres pour cause de pluie, Geoffrey Blancano et Thiago Seboswide étaient les deux seuls joueurs à s'affronter grâce à la présence d'un toit au-dessus de leur terrain. Et le Français 270e mondial atteint le troisième tour des qualifications en s'imposant sereinement 6-3, 6-3.
Merci Léana Minier. Deux minutes, c'est la fin de ce journal.